Pierre-Louis, un cas juridique sans précédent. La bibliothèque de M. le Président Barbeville était le lieu de ses délices. Il l'appelait ma garçonnière. Tous les matins, il y montait familièrement, robe de chambre, et délaissant un cabinet où il n'avait plus rien à faire depuis que l'âge de la retraite l'exilait du tribunal, M. le Président Barbeville gravissait d'un pas encore vif un petit escalier de pierre colimaçon qui le menait au dernier étage, et jamais il n'ouvrait la porte sans un sourire de contentement. Le trésor de ses livres était éclairé par un vaste reflet de verdure. À travers les petits carreaux d'une grande fenêtre Louis XIV, on voyait filtrer au dehors la fraîcheur des feuilles nouvelles. Deux marronniers dépassaient de leur cime le toit du vieil hôtel rouge. Le soleil ne pénétrait pas à travers leur épaisseur, mais faisaient sur le tapis une ombre claire et mouvante qui donnait à cet ermitage quelque chose de pastoral. Assis dans un grand fauteuil à pupitre, dont le modèle lui avait été communiqué par Monseigneur le Duc d'Aumale, le bon Monsieur Barbeville posait son crachoir à gauche, son porte-cigarette à droite et un livre devant lui. Il avait la passion des livres. C'était même la seule passion que la faculté lui permit encore et qu'il fut très capable d'en éprouver plusieurs autres et qu'il en fit de loin en loin la juvénile expérience. Mais ces expériences devenaient peu à peu, sinon pour lui, difficiles au moins. Il avait enfin plus souvent, il ouvrait plus souvent un vieux livre que un jeune corsage. Un matin, comme il terminait la lecture d'une curieuse plaquette acquise la veille, son médecin vint le voir en ami. « Oh mon cher, vous arrivez bien !» dit le vieillard d'un ton réjoui. « J'ai une question à vous poser, et vous serez bien malin si vous savez me répondre, car c'est un point de jurisprudence sur lequel, avant de lire ceci, j'eusse donné ma langue au chat. Alors je me récuse. Attendez. Il s'agit du mariage. Si la question est de droit, elle est d'abord de médecine, comme vous le verrez par la suite. Mon cher, j'ai jamais rien vu ni rien lu de plus extraordinaire. Depuis 52 ans, je suis abonné à la Gazette des Tribunaux et au supplément de Dalloz. J'ai entendu moi-même des milliers d'affaires. On m'a conté les anecdotes historiques, juridiques les plus cocasses de notre temps. Mais rien qui ressemble à ceci. Vous m'envoyez stupéfait. Monsieur le Président Barbeville s'enfonça dans son fauteuil, mit ses mains dans la manche de sa robe de chambre et formula lentement la question suivante en articulant chaque terme mais avec précision et netteté. Comment un mariage régulier, conclu sous le consentement des deux parties, peut-il entraîner par des nécessités immédiate et inéluctable de la part de l'un des deux conjoints et avec la complicité de l'autre, les crimes de rapt, de séquestration, de proxénétisme, d'attentat à la pudeur, de viol répété, d'inceste, d'adultère et de polygamie. Entré au début de l'énumération, le médecin fit éclater de rire. Oh, mais notez bien, poursuivit M. Barbeville, notez bien que ce que je vous ai dit parle des nécessités immédiates et inexorables. En effet, ce ne sont point des faits subséquents et soumis à l'initiative de l'un des deux époux. À l'instant même où a lieu la consommation légitime de ce mariage, tous les crimes contre les mœurs se trouvent perpétrés à la fois. Et ni l'un ni l'autre des conjoints ne peut s'empêcher qu'il en soit ainsi, ou alors il leur faut renoncer à s'unir. L'ami du président resta quelque temps méditatif, puis il demanda « C'est un conte de fées ?»« Nullement. Rien n'est plus authentique que l'histoire. Est possible, vraisemblable et vrai. Oh, j'irai plus loin. Le cas est unique à ma connaissance. Il est évident qu'il y en a eu dans le passé, plusieurs précédents, que j'ignore. Et il se représentera dans l'avenir, n'en doutez pas un instant. » En effet, la situation de la jeune fille ne lui est pas particulière et l'aventure ne dépend pas du fiancé. N'importe quel homme à sa place eût traversé les mêmes épreuves. Oh, alors expliquez-le-moi, je ne devine rien du tout. Monsieur Barneville commença ainsi. Vous devinerez dès le premier mot. Une Italienne de Paris accoucha un jour d'un enfant double, ses couches étant clandestines, et la sage-femme qui les soigna eut garde de communiquer le fait à l'Académie des sciences. L'enfant, une ou deux petites filles, selon qu'on l'examina par le haut, par le bas, avait deux têtes, quatre bras, deux poitrines, un ventre commun et deux jambes seulement. Il était double jusqu'à la ceinture et simple de là jusqu'aux pieds. Oh, ce cas n'est pas absolument rare, si je me trompe. Non, surtout chez les morts-nés. Allez, continuez, désormais je vous suis. Mais on en connaît qui ont vécu. Oh, plusieurs. Ce furent donc, si l'on peut dire, des monstres bien constitués. Oh, citez bon un exemple. Rita Cristina, deux fillettes qui naquirent en Sardaigne vers 1830. Elle ressemblait beaucoup à la description que vous venez de me donner. Poitrine double, bassin commun, et leurs parents les amenèrent à Paris pour les offrir en spectacle. Mais les autorités jugèrent l'exhibition contraire aux mœurs et l'interdirent. Et la pauvre famille, privée de ressources, dut laisser les enfants dans une chambre sans feu, où elles moururent d'une bronchite. On a fait leur autopsie ? Oui. Et leur système nerveux était distinct ? Entièrement. Sauf à la partie inférieure de l'abdomen, dont les sensations étaient perçues par les deux cerveaux à la fois. Ah ben parfait. Vous allez voir combien votre exemple donne de la force à mon récit. Le vieux président prit une longue cigarette dans un tuyau d'écume, l'alluma et reprit avec animation. Les deux petites filles de bonne italienne furent déclarées sous les noms de Maria Magdalena. Elles vécurent. Leur mère ne les montrait point, mais les élevait très tendrement. Elles eurent une croissance régulière, une puberté normale. Hier, à 16 ans, c'était deux adolescentes fort jolies, malgré l'étrange union de leur beauté. Si la queue de la sirène ne l'empêcha pas de séduire les hommes, nous ne devons pas nous étonner que Maria Magdalena ait troublé le cœur d'un amant. À vrai dire, toutes deux furent éprises. Magdalena seule fut aimée. Un jeune homme devint amoureux de celle-ci. Mais comme il était plein d'égards pour l'autre, les sœurs crurent partager en commun un amour, et elles y répondirent ensemble avec tout le premier feu de leur jeunesse nouvelle. Malheureusement, l'illusion ne dura guère. Le jeune homme eut scrupule de la prolonger. Une lettre de lui, adressée un jour à Mademoiselle Magdalena, éveilla dans le cœur voisin les mille serpents que vous savez bien. Et lorsque la demande en mariage fut présentée officiellement, Magdalena répondit oui, et Maria répondit non. Instance, prière, tout fut en vain. La mère se joignit aux amants pour apaiser la récalcitrante et ne réussit à pas davantage. C'est un comique extravagant, s'écria le médecin, secoué d'hilarité. Tragique, mon cher. Voilà une situation dramatique comme je n'en connais pas d'autre. Être sœur ennemie, rivale d'amour, se confondre pour moitié avec celle qu'on aborde, être condamné par la nature, avoir toutes les caresses dont l'autre sera l'objet. Que dis-je à les voir, à les éprouver, et plus tard à porter le fruit d'un amant deux fois détesté. Oh, Dante n'a pas inventé cela. Voilà qui dépasse en horreur les supplices des enfers chinois. Donc, et je reprends mon récit, l'Italienne résolue à marier l'une de ses filles malgré l'opposition de l'autre, s'en alla trouver le maire de l'endroit et lui demanda s'il consentirait à célébrer le mariage en de telles conditions. Le maire, indécis, répondit que la question lui paraissait être d'une complexité sans précédent et qu'il ne croyait pas, lui, autorisé à la trancher, que ses travaux quotidiens ne lui permettaient pas de faire l'examen ludique de litige aussi délicat et qu'enfin il priait ses administrés de bien vouloir lui envoyer la suite de continuation des avocats plaidant le pour et plaidant le contre. Et ce procès eut lieu? Oui, un procès privé, bien entendu, dans le cabinet du juge et du maire, sans autre assistance que les adjoints et le greffier. L'avocat de Magdalena plaida le premier. L'exorde fut ironique. L'exposé du fait facétieux. Il commença la discussion sur le même ton, et tour à tour, il invoqua l'article 1645, obligation de délivrer la chose comme ses accessoires, ou l'article 503-9, encore plus injurieux dans son application. Puis, cessant les plaisanteries, il posa le dilemme suivant. Vous mariez à Magdalena, comprend deux femmes distinctes et différentes, ou elle n'en comporte qu'une. Dans le premier cas, il est évident que le consentement de la sœur n'est pas nécessaire. Mais le second cas, où l'on fait abstraction de la partie adverse, l'évidence est encore plus grande. Il développa et soutint cette dernière thèse. Jamais, dit-il, on n'a considéré, ni dans la réalité, ni même dans l'imagination des poètes, que la multiplicité des membres multiplia les individus. Un veau à six pattes n'a jamais été qu'un veau. Les cent yeux d'Argus n'appartiennent pas à 100 personnes. Janus aux deux visages n'est qu'un seul dieu. Cerbère se dit au singulier malgré ses trois têtes infernales. Et alors pourquoi Maria Magdalena, physiquement indivisible, formerait-elle deux individus? Puisque le propre de l'individu est, par étymologie, l'indivisibilité. Oh, fit le médecin, j'aime beaucoup ce raisonnement. D'ailleurs, poursuivit-il, en admettant même que l'on puisse soutenir la dualité des intelligences, nous n'avons pas à nous occuper ici de psychologie, mais de mariage. Le mariage a un but précis que nous connaissons tous et que nul ne discute. Or, si Maria Magdalena est venue au jour avec un cerveau double, elle est parfaitement simple au point de vue nuptial. De ces deux femmes que vous distinguez par la ceinture jusqu'à la ceinture, l'unité d'organe ne fait qu'une seule épouse, évidemment. Et l'avocat de la deuxième sœur répondit qu'il ne s'égarerait pas dans des digressions mythologiques où s'était convenu l'adversaire et qu'il plaiderait pour le bon sens. Le seul fait que Maria Magdalena soit en procès l'une contre l'autre, dit-il, prouve suffisamment qu'elles ne se confondent pas. Maria refuse de se marier. Et si M. X épouse sa sœur, ma cliente sera nécessairement enlevée. Rapt compliqué par la minorité du sujet, premier crime. Enlevée, elle sera devenue malgré elle, elle sera détenue au domicile des demandeurs. Séquestration, deuxième crime. Et là, notre mineure séquestrée sera contrainte d'assister à toutes les caresses intimes échangées entre les époux, outrage à la pudeur, exhibitionnisme. Par la force, elle sera mise au lit près d'un homme avec la complicité de Magdalena et dans l'intérêt de celle-ci. Proxénétisme, traite des blanches, quatrième crime. Malgré sa résistance indignée, elle cessera d'être vierge en même temps que sa sœur, puisque sa conformation physique le veut ainsi. Viol, cinquième crime. Et le coupable sera son beau-frère. Inceste, sixième crime. Non prévu par les lois, mais que je retiens néanmoins comme circonstance aggravante. Enfin, cet homme est un homme marié, adultère, et septième crime. Est-ce là tout ? Non, non, pas encore. Le mariage de l'une détermine le mariage de l'autre jumelle, puisque toutes deux sont indivisibles comme Vous le démontrez, mon confrère, avec une lumineuse justesse de déduction. Vous êtes donc contraint d'inscrire à la fois sur deux états civils de deux femmes le nom d'un seul, et même mari, auquel vous l'épargnez le cas d'adultère que, pour le précipiter, dans celui de bigamie, de devenir sciemment complice. De la sorte, plus tard, et plus tard aux travaux forcés, le jugement fut remis à Vitaine. Oh non, 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 le maire protesta sur le champ qu'il n'avait jamais songé à donner son assentiment. Et le mariage ne fut pas conclu. Dieu soit loué, dit gaiement le médecin.